Tout sur elle.
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 Tout
sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme depuis 10 ans. Avec cette profession-là, on m'a projetée sans ménagement dans le monde des femmes. J'ai ri avec elles, j'ai pleuré avec elles. Je les ai vues enceintes,
triomphantes,
violées,
attendries,
victimes de violences,
cabossées,
émerveillées,
avortées,
donner la vie,
allaiter,
perdre leur enfant,
douloureuses,
désespérées,
réglées,
ménopausées,
infertiles,
stériles,
grandies,
changées,
riantes,
libres.
Mes patientes, leurs familles m'ont tellement donné qu'aujourd'hui j'ai envie de tout partager, de transmettre le savoir académique que j'ai acquis, mais aussi celui que j'ai reçu des femmes que j'ai accompagnées.
Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. Je suis Nina Pareja, je suis journaliste. Je réalise ce podcast signé Anna Roy et produit par Acna Productions.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tout sur elle, dans notre série consacrée au postpartum qui s'intitule « Le postpartum dure 3 ans ». Anna, avant toute chose, avant que j'annonce même le thème de l'épisode, qu'est-ce que le postpartum pour la 7e fois, 6e fois?
Je ne sais plus.
Ça fait beaucoup.
On me pose cette question tous les jours de ma vie. Anna, c'est quoi le postpartum? Alors, j'y retourne. Le postpartum, du point de vue de la médecine, c'est cette durée qui va de la sortie du placenta jusqu'au retour de vos règles. Donc, c'est une durée qui est extrêmement variable selon les femmes, selon qu'on allaite, selon qu'on n'allaite pas, selon les circonstances. Et puis, il y a cette définition que je propose moi, qui est de se dire que le postpartum est la plus grande des déflagrations dans la vie. Il y a la naissance, le postpartum et la mort. Et donc, cette déflagration-là dure à peu près 3 ans. Et c'est un moment de l'existence où tous les pans de notre vie vont être réinterrogés et repensés.
Franchement, ça se voit même pas que tu le répètes tous les jours. Tu l'as hyper bien fait. Et aujourd'hui, on aborde un thème qu'on aurait pu commencer par là aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'est un thème qu'on nous a réclamé. Quel est ce thème, Anna?
Oui, en fait, on était parti sur notre lancée, tu vois, et on traitait, et puis il y a des gens qui nous ont dit wow, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu et qui est hyper importante, c'est comment on se prépare au postpartum? Est-il possible de se préparer au postpartum? Ou alors, autre question, est-ce que c'est possible d'accompagner quelqu'un qui est en postpartum? Et je trouve, c'est vrai, que ce sont des excellentes questions. Et c'est pour ça qu'on intègre cet épisode dans le postpartum dure 3 ans. Parce que vous avez tout à fait raison, c'est une question très pertinente.
On en profite pour vous dire qu'on apprécie toujours autant d'avoir vos retours et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que, Anna, on peut véritablement se préparer au postpartum?
Alors, souvent, les femmes se plaignent, elles disent, quand elles sont, ça y est, en postpartum, elles lui disent, non mais attendez, vous vous êtes foutues de nous, on n'a pas du tout été préparées au postpartum. La question, effectivement, est de savoir si on peut se préparer. Alors, déjà, je pense qu'elles ont raison. Elles ont raison de dire qu'elles sont absolument pas préparées, en tout cas pas suffisamment informées, ça c'est vrai, donc il faut que ce niveau de l'information augmente, et bien c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est là. Pourquoi ce niveau d'information est insuffisant? D'abord, je pense parce que c'est un sujet de meuf. Je me suis fait cette réflexion en préparant cet épisode en me disant, mais moi, jeune fille, je devais avoir 16 ou 17 ans, il y avait toute une campagne autour du Viagra et de l'impuissance masculine dont on parlait énormément. Mais par contre, donc qui touche quand même une certaine partie de la population et qui est une réponse à une dysfonction, etc., on parlait pas des règles, on parlait pas de tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, il y a le fait que c'est un sujet de meuf, d'abord. C'est un sujet intime aussi. C'est vrai que quand on parle du postpartum, c'est parfois difficile d'en parler en société, parce qu'on va parler quoi? De cicatrices, de sang, de popo, de pipi, de trucs quand même qui sont parfois assez intimes. Et enfin, et je pense que c'est pour ça, la majeure raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est qu'en fait, c'est un sujet où on veut pas accepter que ce soit un sujet qui soit traité avec l'ambivalence. C'est insupportable de parler de la naissance et de la venue d'un enfant en disant « c'est super », ça tout le monde le dit, mais en même temps, bah non, ça a aussi des aspects pourris, quoi. Cette ambivalence-là, les gens la refusent. D'ailleurs, comme ils supportent pas non plus l'ambivalence au moment de la mort, où la mort, à l'inverse, doit être une expérience absolument que malheureuse, alors qu'il y a des gens qui y trouvent que ça va révéler, enfin la mort de quelqu'un, qui c'est une expérience éminemment douloureuse, mais personne ne va dire « ouais, ben moi ça m'a apporté ça, j'ai vécu ça, et ça, voilà, etc. » Donc, je trouve que l'ambivalence est souvent pas traitée, et en particulier dans ce moment de la naissance.
Toi, tu dois avoir l'impression maintenant que ça y est, tout le monde connaît le postpartum parce qu'on en parle sur les réseaux, mais petite confidence,
Je suis pas sûre de me souvenir de quand j'ai appris que ce terme existait, mais certainement pas avant que j'ai au moins 24 ans.
Ah non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, mais c'est sûr, moi, je sais que les réseaux sociaux sont un miroir grossissant. Donc, on a l'impression que tout le monde est informé, que tout le monde connaît le postpartum. En réalité, je le vois sur le terrain. Je dirais que ça concerne une femme sur 10, peut-être, qui connaît vraiment ce terme, qui sait que c'est un vrai sujet. Les autres continuent de ne pas connaître ce terme. Faut se méfier. C'est à la fois génial, mais les réseaux sociaux nous font croire que les gens connaissent les règles, nous connaissent, etc., etc. Et c'est pas vrai. Et moi, j'aime beaucoup parler avec des femmes qui ont 50, 60, 70, 80. Et effectivement, quand on discute avec elles, elles disent « Oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr !» J'ai l'impression qu'il y a 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie, si elles ont eu plusieurs enfants, qui sont dans une espèce de trou noir, où elles se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, 15 ans ?» Et ben, ça correspond souvent à leur postpartum. Où c'était une phase tellement intense, tellement folle, que ça a été absorbé, quoi. Et puis, alors attention, parce que, et c'est là où le mais existe, c'est-à-dire que moi, j'ai été quelque part la femme de France la plus informée, la plus préparée au postpartum. Je faisais des visites de postpartum, j'avais étudié le postpartum. Et pourtant, je me suis pris la vague, le tsunami, dirais-je, en pleine face. Donc, même si on est super ultra préparé, on va le voir, peut-être que ça suffit pas.
Les femmes, là, qui n'ont pas d'enfants, qui ont un projet de bébé, qui sont enceintes, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Anna?
On s'informe, et là, je vais reprendre, j'adore les métaphores, après la transatlantique, maintenant, ça va être l'histoire du travail. Toi, Nina, t'es journaliste, et puis tu te dis, moi, je vais devenir sage-femme. Ok, bah super, Nina va faire une reconversion de sage-femme. Donc, elle va s'informer, et tout le monde va trouver ça normal, sur la rémunération, sur les conditions de travail, sur les études qu'il faut faire, sur tout, sur comment ce sera possible, etc., etc. Et tout le monde va dire, bah oui, bien sûr, elle a raison, elle se reconvertit, elle va faire un nouveau travail. Bravo, Nina, de t'informer, c'est bien normal. Et tout le monde va même lui dire, j'espère que tu t'es bien informée, Nina, sur cet aspect-là. C'est normal, t'es d'accord avec ça?
Je suis tout à fait d'accord, Anna.
Voilà, bon. Eh bien, sur le travail le plus engageant, le plus fou de l'existence, qui est celui de devenir parent, alors là, non, il faudrait y aller sans bretelles et sans parachute, sans s'informer de quoi que ce soit à l'avance. C'est-à-dire, on y va, comme ça, parce que c'est soi-disant inné, soi-disant dans nos gènes, soi-disant...
Non, mais il y a un truc auquel j'ai du mal à croire, il n'y a pas un milliard de bouquins sur être parent... accueillir mon bébé.
Mais si, mais c'est ces bouquins, la plupart de ces bouquins.
Ouais.
Elle va me sauter la gorge.
Ça arrête au moment de l'accouchement ou alors des quelques jours après. Ou alors, et après, une fois que l'accouchement est traité, on va traiter beaucoup de la santé de l'enfant, de la petite enfance, version enfant, mais la mère, le parent disparaît au moment de l'accouchement. Alors bien sûr, ça change. Il y a Ilana, il y a moi, il y a d'autres gens font ce travail-là. Mais non, c'est à la fois très récent et à la fois encore très marginal.
On rappelle que toi, t'as publié La vie rêvée du postpartum et là, récemment, Année Zéro, une
Absolument.
Bande dessinée.
Exactement. Et il y a plein de livres. Voilà, pour vous dire que vous trouvez ça normal que Nina s'informe parce qu'elle va changer de métier, qu'elle va devenir sage-femme. Évidemment, c'est normal que vous, qui allez devenir mère, c'est un nouveau métier, ou vous devenir père, eh bien, vous vous informiez. Le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger hein, dans l'information.
Alors, on se tourne vers quoi, à part évidemment tes livres?
Eh bien, il y a des livres super extraordinaires. Il y a donc Ilana Wiesman, il y a Le Mois d'or de Céline Chadella. Enfin, il y a plein d'autres livres. Je vous invite vraiment à fouiller. Vous allez dans une grande librairie et regardez, parce qu'il y en a peut-être un qui va vous sauter au visage, parce que c'est pas forcément le mien. Ça peut être celui de quelqu'un d'autre. Cette sensibilité-là me plaît particulièrement. Donc, bien sûr, il y a les livres. Il y a l'émission La Maison des Maternelles. Je veux dire, qui est quand même une émission exceptionnelle. Non, mais mais je dois le reconnaître. Je dois le dire. Moi, je la regardais même quand j'étais étudiante. Je me rappelle réviser mon bac devant la maison des maternelles. Donc, je pense que c'est vraiment un bon support d'information. Vous avez plein de tutos à revoir sur YouTube. Là, je fais la pub, mais en même temps, je suis gênée. Mais je l'aurais fait de toute façon, même si je ne travaillais pas au maternel. Il y a bien sûr les podcasts. Alors, je vais citer les plus connus, mais il y a Sage Meuf.
De Anna Roy.
Il y a Bliss, évidemment. Il y a La Matrescence. Il y a le nôtre. Et il y en a plein d'autres. Alors, attention, je veux mettre une alerte. Il y a la question des podcasts de témoignage, où c'est du pur témoignage, où donc une femme vient raconter son histoire. Ça, c'est merveilleux parce que la parole se libère. Mais je vous dis attention parce qu'il y a des gens comme moi qui sont très perméables aux émotions des autres. Des gens un peu hypersensibles. Et qui, du coup, ça va les déstabiliser plus que ça va leur apporter quelque chose. Moi, par exemple, je peux écouter un témoignage de femme et je suis refaite pas dans le bon sens pendant 3 jours. Je reste hyper mal, hyper triste pour elle, hyper ceci. Ou faites attention aux témoignages que vous écoutez. Peut-être aller écouter plutôt des témoignages avec des happy end ou des choses comme ça. Mais il y a des gens comme moi pour qui les témoignages, c'est très difficile. Donc ça dépend des personnalités, mais il y a des femmes qui arrivent à rester imperméables, auquel cas c'est super. Mais non, mais c'est comme avec mes patientes, je suis pas imperméable. Je suis perméable aux émotions des autres, donc bah, c'est plus dangereux, quoi.
Je m'informe, mais pardon, hein, mais je peux m'informer autant que je veux sur le métier de sage-femme. D'ailleurs, je m'informe énormément puisque je te connais depuis bien longtemps. Je sais toujours pas à quoi ça ressemble.
Voilà. Alors, déjà, une fois que vous êtes informé, il faut quand même le préparer de façon très concrète. C'est-à-dire que Nina, après avoir fait cette phase d'information sur le métier de sage-femme, il va falloir que tu saches quelles chaussures tu vas avoir aux pieds, quelle tenue de blouse tu vas avoir. Enfin, à rentrer dans les détails un peu plus pratiques et commencer à poser des balises. Ah oui, est-ce que j'aurai assez d'argent pour faire mes études et tout ça? Et là, donc, je vous propose vraiment de mettre des balises pendant la grossesse. Mettre des balises, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des digues. C'est ce que j'ai fait moi. Ça, j'étais ultra préparée, j'étais informée, mais après j'ai mis des digues. Les digues, c'est quoi? C'est prévoir un tissu de professionnel de la santé pour la suite. Quel professionnel de la santé? Évidemment. D'abord, je prêche pour ma paroisse, ce qui est normal. Il va falloir vous trouver une sage-femme pendant la grossesse qui va pouvoir assurer votre postpartum. Et j'insiste sur un concept, c'est qu'il faut que vous aimiez bien cette sage-femme. On peut ne pas être super copain avec son dentiste parce qu'il est là pour faire des soins dentaires. Mais, je dis pas être copain, mais il faut bien aimer la sage-femme. Pourquoi? Parce que dans le postpartum, elle va regarder nos cicatrices vulvaires, elle va toucher notre périnée, elle va toucher nos seins, elle va, etc., toucher des zones qui sont très intimes, donc il faut bien s'entendre avec elle. Donc prenez le temps de bien la choisir pendant la grossesse. Alors bien sûr, elle peut intervenir, et on le fait tout le temps, en préparation à la naissance et à la parentalité, les consultations médicales obligatoires de la grossesse, et en postpartum, elle peut intervenir contrairement à ce qu'on entend partout, qui tout le monde dit, une sage-femme, elle peut venir deux fois dans les 12 premiers jours après l'accouchement. C'est archi faux. Une sage-femme peut venir autant de fois que la patiente le désire. Voilà, c'est tout. Donc en fait, elle peut venir beaucoup. Moi, il y a des patientes qui ont besoin de soins rapprochés, je les vois tous les jours. À l'inverse, effectivement, il y a des femmes qui vont très bien et je les vois qu'une fois par semaine. Donc en tout cas, elle peut venir autant que vous voulez. Il y a donc les sages-femmes, il y a aussi...
Et c'est remboursé?
Bien sûr, tout à fait, comme un médecin généraliste de base. Hein, exactement de la même façon.
Et la sage-femme, en postpartum, elle fait aussi tout ce qui est rééducation. Elle peut aussi faire, ou une autre peut-être, je sais pas, rééducation du périnée, c'est ça?
Bien sûr, elle va s'occuper de la rééducation du périnée, de la visite postnatale obligatoire entre 6 et 8 semaines après l'accouchement, qui est là pour vérifier que votre corps et votre tête se sont bien remis de la naissance. Et il y a maintenant, à partir du 1er juillet 2022, donc demain, des entretiens post-nataux qui ont été mis en place et qui sont obligatoires dans le dépistage de la dépression du postpartum, et donc qui doivent avoir lieu entre 4 et 6 semaines après l'accouchement. Donc oui, la sage-femme, il y a tout un suivi du postpartum. Je suis d'accord pour dire que c'est pas assez, mais c'est déjà ça, et donc profitez-en.
Les autres professionnels de la santé qu'on peut investir dans ce postpartum, quels sont-ils?
Alors ils sont nombreux. Il y a évidemment le centre de protection maternelle et infantile, qu'on appelle PMI. Les parents pensent à tort que ce sont des lieux réservés à la grande précarité ou aux grandes difficultés. C'est pas du tout le cas. Vous pouvez bien sûr bénéficier d'un accompagnement à la PMI, qui que vous soyez, hein, il n'y a pas besoin d'être particulièrement précaire ou particulièrement en difficulté. Allez prendre contact avec eux pendant la grossesse parce que peut-être qu'ils proposent des choses comme des ateliers de massage bébé, des consultations d'allaitement, enfin plein de choses. Ils proposent en général plein de choses, donc ça vaut le coup d'aller en amont parce que c'est vrai qu'une fois que le bébé est là, on a beaucoup moins de temps. Vous pouvez bien sûr bénéficier aussi de l'accompagnement par votre médecin généraliste. Hein. Il y a des personnes qui sont très attachées à leur médecin généraliste et on les comprend. Et donc elles peuvent bénéficier évidemment d'un suivi par le médecin généraliste, par le gynécologue, par le pédiatre, par des consultantes en lactation. En tout cas, ce que je vous invite à vous rappeler, c'est à vous dire, je répète à longueur de journée, mais je recontinue de le faire, 81% des femmes prennent soin de la santé de leurs proches plus que de la leur. Il faut vraiment essayer d'arrêter ça. Et donc, votre santé a beaucoup d'importance. Et donc, vraiment, il faut que vous soyez suivi. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire ce maillage de professionnels de la santé autour de vous avant l'accouchement, parce qu'après, vous êtes débordé par le manque de temps.
Est-ce qu'on peut faire intervenir une doula?
Oui, bien sûr.
Tu peux définir ce que c'est une doula?
Alors, c'est pas facile de définir exactement ce que c'est qu'une doula, mais on va dire que c'est... On peut pas dire que c'est une professionnelle, on va dire que c'est une femme ou un homme d'ailleurs, qui accompagne les parents pendant la grossesse, l'accouchement et les suites, mais pas sous un angle médical. Et alors, il y a une grande fâcherie entre les sages-femmes et entre les doulas. Moi, je suis pas du tout fâchée avec les doulas. Moi, j'aime beaucoup les doulas. Je travaille beaucoup avec les doulas, j'ai aucun problème parce que elles font pas le même travail que moi. Moi, je trouve ça super, c'est-à-dire que les parents, s'ils peuvent en avoir, bah, qu'ils l'aient. Alors, le problème, c'est qu'il faut trouver, il y a comme c'est pas réglementé comme profession, il y a des gens quand même très différents. Donc attention à la personne sur laquelle vous tombez. Et le problème majeur, moi surtout, c'est que ben, ça coûte trop cher. Enfin, ça coûte cher. Je dis pas que c'est hors de prix, mais enfin, pour la plupart des gens, c'était pas faisable. Moi, je pouvais pas le faire. Vous voyez, une petite sage-femme qui gagne 1700 balles, elle peut pas.
Parce que c'est un accompagnement un peu spirituel et psychologisant, disons.
Non, c'est à la fois très, une écoute attentive, mais à la fois aussi une aide très concrète. Je discute avec toi pendant que je vais sortir le linge, tenir le bébé. Non, c'est très concret. Hein, moi j'ai des parents, ils sont suivis une fois par mois pendant la grossesse, puis après l'accouchement, puis après la suite. Donc c'est un sujet très touchy. Moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en périnatalité, que plus on est nombreux, plus c'est cool. Mais moi j'ai ce sujet qui m'embête, c'est que c'est trop cher pour la plupart des gens. Donc oui, pourquoi pas la doula, mais avec les réserves que j'ai faites.
Et les doulas, c'est les seuls à faire ce type d'accompagnement ?
Alors en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a des professionnels absolument extraordinaires en France, que d'autres pays n'ont même pas, comme les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture, les auxiliaires de vie, enfin on a tout un tas de personnes formées qui pourraient faire ce rôle de doula à merveille, avec en plus une petite consonance professionnelle dont on est sûr de la qualification, si vous voulez. Alors, elle pourrait suivre un module complémentaire de soins particuliers à accorder à quelqu'un, à une femme enceinte, une femme qui accouche ou une femme dans les suites. Je regrette qu'en fait, on puisse pas former des femmes qui soient aides-soignantes ou auxiliaires de puériculture pour qu'elles puissent faire la doula. Et en plus, il y a une vraie demande de ces professionnels qui sont souvent en intra-hospitalier de pouvoir diversifier leur activité et de pouvoir exercer à l'extérieur. Donc ça, c'est toujours... Je trouve ça vraiment dommage d'avoir tous ces professionnels magnifiques et de pas pouvoir les déployer sur le terrain alors qu'on sait que les femmes en ont tant besoin. Et surtout, toujours dans cette vertu de santé publique. Hein. Une femme qui serait accompagnée, j'imagine, par une auxiliaire de puériculture ou une aide-soignante un peu spécialisée, eh ben, je suis sûre qu'elle consulterait moins aux urgences, je suis sûre que ça irait beaucoup mieux.
Les autres balises qu'on peut mettre en place, une fois qu'on s'est bien entouré des professionnels de santé et éventuellement, si on a les moyens, de doula. Ensuite, les autres balises, qu'est-ce que ça va être ?
Eh bien, il y a déjà l'environnement familial et amical. Je reprends encore une comparaison. Là, je vais avoir un troisième enfant. C'est pas le cas. Mais, non, c'est... c'est pas le cas. Mais je veux dire, là, ça y est, hop, je suis enceinte de mon troisième enfant. Nina, tu es devenue une amie. Je vais te dire, j'oserais te dire, bah, écoute, Nina, est-ce que tu peux t'engager 2 heures par semaine à garder l'enfant pour que je puisse, moi, faire une sieste? Et j'oserais te le demander. Et oser le demander, parce qu'en fait, les gens, ils sont fiers qu'on leur demande, parce que c'est une marque de confiance et d'amour, quelque part. Et pareil pour les grands-parents, pareil pour les oncles, les tantes et tout. Tu serais contente que je te demande ça.
Mais non seulement je serais hyper contente, mais en plus, tu sais quoi, je te ferai des petits plats.
Ben voilà. Alors Nina, il faut le savoir, est une excellente cuisinière, donc effectivement, je le sais, je l'ai compris, donc je lui demanderai les petits plats aussi. Donc oser demander, c'est pas que vous êtes insuffisante et que vous êtes trop nulle et que, parce que vous arrivez à rien, pas du tout. C'est qu'en fait, un bébé, ça absorbe une énergie considérable et d'avoir accouché encore plus. Donc voilà. Ensuite, il y a le quotidien. Il faut remplir le congélo, enfin si vous en avez un, bien sûr, dans l'idée de préparer des petits plats, d'avoir une base d'épicerie toute faite, d'avoir des affaires pour le bébé en quantité suffisante, etc., etc. Et puis vous renseigner sur les aides potentielles, je pense aux travailleuses, aux techniciennes d'intervention sociale et familiale, ce qu'on appelle les TISF, qui peuvent apporter une aide à toutes et tous, et pour le coup, c'est en fonction de ses revenus, donc ça peut être très intéressant. Et puis, bien sûr, s'il y a un coparent, il faut baliser l'aide potentielle. Est-ce qu'il va être là, ce coparent ? Est-ce qu'il va pouvoir prendre son congé paternité ou pas ? Parce que contrairement à ce que tout le monde pense, il y a encore plein de papas qui peuvent pas prendre de congé paternité, en particulier les indépendants. C'est pas facile. Et donc, ça représente beaucoup de gens. Faut essayer de baliser, de voir qui va faire quoi dans les suites, quoi.
À partir de quel moment de la grossesse on peut se préparer ? Parce que je pense qu'il y a aussi un truc, c'est se préparer au postpartum, ok, mais et si je fais une fausse couche ? Mais j'ai rempli mon frigo et j'ai rempli mon congélateur et mon épicerie et j'ai acheté plein de fringues et après c'est super douloureux. Enfin,
absolument. Alors ça, c'est très juste de dire ça. C'est très très juste. C'est très très juste parce que c'est pareil pour les habits de bébé. Il y a plein de parents qui n'arrivent pas à acheter des habits. J'entends très bien cette remarque et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes enceintes n'ont pas envie de s'occuper de ça parce qu'elles se disent ça va me porter la guigne. Enfin, je veux dire, bouf, on va pas parler de la suite alors qu'il est même pas là, quoi. J'entends, mais je vais vous dire quelque chose de très douloureux, c'est que par mon expérience, je sais que de toute façon, perdre un enfant, la douleur, elle est, je peux même pas vous dire à quel point c'est douloureux. Et le fait d'avoir acheter des vêtements ou d'avoir anticipé sur le postpartum, c'est pas ça qui rendra la douleur moins grande. Moi, je trouve de toute façon que c'est super bien d'avoir eu cette discussion avec ses amis parce que du coup, cette aide qu'on a imaginée comme ça peut être troquée en cas de douleur extrême par une autre aide. C'est-à-dire, de toute façon, les petits plats seront les bienvenus. Et de toute façon, des séances d'écoute attentive et non jugeantes et câlins seront encore bienvenues aussi. Donc, de toute façon, créer cet espace de dialogue, c'est pas perdu. Et encore une fois, ça va pas de toute façon accentuer la peine ou la diminuer. La peine, de toute façon, est abyssale. Donc, oui, j'ai pas répondu à la première question. Souvent, les femmes se préparent au postpartum, en général dans le dernier trimestre de la grossesse.
Donc, revenons à cette préparation. Dernier trimestre, on s'est hyper bien préparé. On a mobilisé tout ce que tu nous as dit de mobiliser. Ça y est, c'est bon, là, on est prêt, là.
Eh ben non.
Et est-ce qu'on n'aurait pas oublié de faire un stage aussi?
Un stage?
Bah, un stage. Bah, attends, je vais devenir sage-femme. J'ai hyper bien lu, je me suis renseignée, j'ai choisi ma blouse.
C'est ça.
J'ai toujours pas vu un bébé.
Eh ben c'est ça. Ben en fait, le stage, c'est le premier enfant. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers enfants, c'est toujours le stage. Non, bon, j'exagère là, je rigole. Mais effectivement, le premier enfant va essuyer les plâtres, va nous apprendre à être parents. Mais enfin, en tout cas, eh bien non, on n'est pas préparé. On n'est pas préparé parce qu'on peut pas se préparer à ce truc-là. Waouh. J'ai rien à dire, waouh. Et je peux vous citer par exemple deux exemples de patientes. La première que j'ai suivie il y a vraiment pas longtemps, c'était une patiente qui était vraiment, qui avait des antécédents de dépression, qui a fait une dépression pendant sa grossesse, et qui me disait, elle me le disait comme ça, elle me disait, de toute façon, Anna, les carottes sont cuites. Moi, j'ai des antécédents de dépression, j'ai fait une dépression pendant ma grossesse, donc le postpartum, ça va être, mais l'enfer sur terre. Je lui disais, mais non, pas forcément. Elle voulait rien entendre, elle me disait, donc elle avait préparé tout comme si ça allait être un truc même pas, enfin, l'horreur, quoi. Et en fait, elle est super contente. Mais en fait, parce que je pense qu'elle avait déjà expérimenté l'ambivalence, ou en tout cas qu'elle avait déjà expérimenté tous ses sentiments négatifs. Et en fait, elle le vit super bien parce que justement, elle avait mis plein de digues et qu'en fait, elle est hyper contente. À l'inverse, j'ai une patiente qui était super contente, super rayonnante, super tout, qui avait tout préparé, entendu tous les podcasts, lu tous les bouquins. Bon, moi, je dis OK. Et qui sait craché littéralement, parce qu'en fait, il y avait un décalage inouï. Elle s'était fait une idée très précise de ce que c'est à quoi ça allait ressembler. Et en fait, non, la réalité était bien plus au-dessus de ce qu'elle avait imaginé. Mais de toute façon, vous n'aurez pas perdu du temps à avoir des digues, à avoir des amis, à avoir à manger, à avoir des pros de la santé corrects, à vous être, avoir informé, parce que souvent, ça fait tilt, en fait. Moi, il y a plein de femmes qui me disent, avec mon livre La vie rêvée du postpartum, elles l'ont lu pendant la grossesse, et en fait, elles sont en postpartum dans le marasme, et elles disent... Bon sang, j'avais lu ça dans le bouquin d'Anna. Donc de toute façon, c'est pas perdu. Puis tant mieux, c'est quand même une sacrée surprise et c'est tant mieux.
Pas tant mieux de déprimer ou d'exploser en plein vol.
Non.
Juste tant mieux que ce soit
une découverte. Inattendu. Ben ouais. Oui, c'est super.
À défaut de réussir à se préparer à quelque chose qui est finalement impréparable, visiblement, du côté de l'entourage. Comment on accompagne? On en a beaucoup parlé dans les épisodes, mais reparlons-en. Comment on accompagne une femme qui est en postpartum?
Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'on sait pas ce qu'elle va avoir envie exactement, en fait. C'est ça qui est délicat, c'est que la femme, le nouveau parent, fait son propre chemin en solitaire aussi, et aucune femme n'a les mêmes besoins. Donc, quand on est un proche, eh bien, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que, un, il faut jamais juger. Alors, c'est hyper difficile, hein, mais même si vous avez l'impression qu'elle fait des trucs bizarres, faut pas juger, faut vraiment se dire, ok, chaque expérience est différente, je ne juge pas.
On alerte si on a l'impression qu'elle peut se mettre en danger ou mettre en danger.
Ah bah bien sûr. Bien sûr, tu as raison de le dire. Oui, bien sûr. On peut dire, ouh, on a le droit de dire, je suis inquiet. Je suis inquiète, je pense que. Mais en aucun cas de dire, ah oh ouais, écoute, franchement, le biberon que tu fais pas chauffer comme ça, je trouve ça un peu limite. Ça, non. Il faut pas non plus donner des conseils irréalistes ou alors des conseils qui sont trop sur le long terme. Et les conseils, attention, quoi. Il faut être sûr de ses conseils. Hein. Moi, le côté, j'ai été mère, donc je vais te donner des conseils avec ma seule expérience de la maternité. Oui, si ces conseils sont gentils et bienveillants, mais attention, attention.
Nina,
tu te fais la grimace.
Non, t'as dit oui, je t'ai entendu penser non.
Oui, c'est-à-dire que s'ils sont bienveillants et que c'est vraiment positif, ok. Mais si c'est pour aller dire, moi j'ai fait comme ça et ça a super bien marché, bah, comme chaque postpartum est différent. Et enfin, voilà, le moi je ferai comme ça, on oublie. Hein. On oublie parce que, bah ouais, toi tu feras comme ça, bah super, et bah pas moi. Après, bah, toutes les aides sont bonnes à prendre. Vous pouvez proposer de faire des petits plats, vous pouvez proposer ou amener des petits plats. Il y a même des gens, moi, c'était super. Ça, c'est vraiment un souvenir lumineux. Pourtant, c'est. Voilà, on m'avait déposé un plat de lasagne sur mon paillasson et je sais toujours pas qui a déposé ce plat de lasagne sur mon paillasson.
Non.
Non, je sais toujours pas.
C'est Garfield.
Oui, absolument, parce que Garfield, j'adore Garfield avec ses lasagnes au fromage. Non, c'était pas Garfield. Ah, peut-être que c'est Garfield. Je l'ai tellement aimé, Garfield. En tout cas, il y a quelqu'un qui a déposé un plat de lasagne et je sais pas qui c'est. Toujours,
merci.
Je sais pas.
Merci le porteur de lasagne.
Ouais, ou la ça. Porteuse. Et du coup, voilà, vous pouvez faire du repassage, vous pouvez faire juste de l'écoute, faire le ménage. Enfin voilà, il y a 10 milliards.
Garder le bébé.
Garder le bébé. Il y a plein de choses à faire.
Sortir la maman.
Exactement. Lui payer un massage, l'emmener chez le kiné. Je sais pas, 10 milliards de trucs, hein.
Tu disais, on ne sait pas forcément les besoins que va avoir une femme. Peut-être que la première chose, c'est de ne pas hésiter à lui demander.
Voilà. Oui, parce que par exemple, il y a des gens, moi par exemple, qui étaient très bien intentionnés et c'était adorable, qui m'ont offert plein de séances de massage. Mais j'aime pas les massages. Enfin, j'aime pas les massages. J'ai un rapport, ça vous pouvez pas le savoir, rapport compliqué à mon corps. Et donc le massage, ça correspond pas du tout à fait. Donc ce que vous pouvez dire, c'est est-ce que tu penses que toi ce serait peut-être plus qu'est-ce que tu pourrais avoir envie, qu'est-ce que tu vois. Alors le problème, c'est que souvent les femmes osent pas dire. Donc après, essayez de voir, vous connaissez, souvent on connaît quand même nos amis. Moi, je vois à peu près chez mes amis qu'est-ce qu'il faut leur apporter et qu'est-ce qu'il faut surtout pas leur apporter.
Mais on n'hésite pas à poser la question parce que je pense qu'il y a aussi un truc où une grossesse pour quelqu'un qu'entoure. Enfin, maintenant que tu l'as vécu et tout, je sais pas si t'arrives autant à te projeter que moi je peux me projeter ou que je vois d'autres se projeter, mais en tout cas, quand t'es quelqu'un qu'entoure, c'est hyper intimidant. C'est hyper intimidant, il y a le côté, c'est un couple ou une maman solo, mais c'est quelqu'un qui vit un moment, tu mesures le côté bouleversant, la charge de travail, etc., le phénomène que ça va être, et beaucoup de gens, du coup, vont pas vouloir déranger.
Absolument. Exactement.
Et à ces gens-là, on dit quoi ?
Eh ben, on dit qu'effectivement, c'est très rare que les parents supportent une visite qui dure plus de 2 heures, par exemple. Et que ça dépend des heures, mais clairement, les gens qui viennent à l'apéro à 18h30, qui s'en vont à 23h30, pour des jeunes parents, à part certains hyper en forme, ce sera pas possible. Il faut être délicat et poser des questions. En fait, les parents, en plus, ils sont dans une ambivalence en « Oh, ma vie d'avant, je veux garder ma vie d'avant » et « Bah non, mais en fait, ma vie a changé, quoi. » Donc, c'est douloureux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont en contradiction. Donc, il faut avoir la délicatesse, par exemple, de ne pas squatter des heures. Bon,
de proposer davantage chez soi pour que les gens partent quand ils veulent.
Mais c'est pas facile,
c'est
quoi.
C'est pas facile.
Non, c'est pas facile. Mais dites-le, d'ailleurs. Moi, je pense qu'à partir du moment où on s'est exprimé ça, en fait, c'est pas facile. Est-ce que tu peux m'aider à mieux t'aider ? Eh ben, tout de suite, ça va mieux.
Anna, est-ce qu'on offre un doudou ?
Bah, moi je veux bien, mais pourquoi faire ?
Pareil, on demande aux parents. Vous avez besoin de quoi pour le bébé ?
Ouais,
ouais. Vous avez besoin de quoi pour vous, quoi ?
Bah oui, parce qu'en fait, quand on fait un cadeau, c'est pour l'autre, c'est pas pour soi-même. Donc les gens qui vont s'éclater à acheter un doudou parce qu'ils trouvent mignon, bon bah ok, c'est sympa. Mais en fait, ce qui est bien, c'est d'offrir des cadeaux qui ont du sens et puis surtout qui aident les gens. Parce qu'après, en fait, ce qui se passe, hein, moi la première, je me suis retrouvée avec, je peux même pas les compter, hein. Peut-être plus de 40 en tout cas. Plus de 40 peluches. Mais là, j'en ai 2 coffres là, si tu veux, on va les voir après. J'ai 2 coffres de peluches qui n'ont jamais été utilisés. Non mais vraiment, en plus, n'oubliez pas un truc, c'est qu'en fait, c'est pas le bébé... Enfin, le bébé, il est né, bon, c'est merveilleux, il a fait beaucoup d'efforts, mais celle qui a fait le plus d'efforts, c'est qui ?
Qui, c'est la personne qui a accouché la femme ? Ben,
voilà. Et d'ailleurs, dans les pays du Sud, souvent, on offre des... Y compris les coparents offrent de très beaux présents à leur compagne. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, cette femme doit être remerciée. Non, mais c'est horrible de dire ça. Mais je pense quand même, moi, j'aimais beaucoup les cadeaux qui m'étaient...
Qui t'étaient destinés.
Ouais, je trouvais ça très touchant parce que je me disais, ah oui, ça veut dire que quand même j'existe toujours, moi. Mais oui, parce qu'après, ce qui se passe, c'est que quand vous accouchez, hop, tout le monde est là, oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Puis vous êtes là, démembré, littéralement. Et puis plus personne vous regarde. Alors que quand on est enceinte, on est l'objet de toutes les attentions.
Ouais, voilà. C'est vrai. Pareil, c'est devenu un peu un gimmick. On sent quand même que t'as beau donner des conseils, faire ce que tu peux, dire qu'il faut se préparer et tout, on est limité. Ou ça semble limité. Est-ce qu'il y a des solutions plus systémiques, j'oserais dire même politiques ?
Mais oui, en fait, tout ça et tout ce qu'on vient de dire, c'est extrêmement limité. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des aides-mamans comme aux Pays-Bas. Il faudrait qu'il y ait des congés de maternité et de coparents plus longs. Il faudrait. Et ça, bah, y a que la politique qui peut changer ça. Voilà, c'est tout. Donc en fait, déjà, faites exploiter à fond là, tout ce qu'on s'est dit. En sachant que si vous éprouvez encore des difficultés, bah oui. Mais en tout cas, c'est vrai que là, je vois bien que c'est limité, que j'ai, comme tu dis très bien, il y a beaucoup de femmes qui ont fait tout ce qu'elles ont pu et qu'en fait, il faut passer à l'action politique et aux réformes législatives, quoi. Il faut que ça change dans la loi. Voilà.
Merci Anna pour tous ces conseils. On espère que ça vous sera utile. On va mettre toutes les références des livres et des podcasts et de tout ce que vous pouvez dévorer pour tenter de vous préparer au mieux dans la description de l'épisode. C'était évidemment tout sur elle, dans le cadre de notre série sur le postpartum qui s'appelle Le postpartum dure 3 ans. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous mettre des cœurs, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous voulez sur Apple, Deezer, Spotify, etc. Maintenant, on peut presque noter les podcasts partout. Merci aussi de nous envoyer des messages, c'est toujours très très agréable. Le compte d'Anna, c'est anna.roy-. Moi, c'est Nina Pareja, tout attaché sur Instagram, nina-pareja sur Twitter. À très bientôt. Crédit musique, Anno Domini Beats, Like That.